Alors, ce matin, c'est pas exceptionnel, mais on va quand même finir. On a fini cette série sur le travail et on va reprendre là où on était la dernière fois. Et vous l'avez derrière moi, c'est le 33e message sur le livre des Actes et on est qu'au chapitre 14. Alors, je me suis dit, bon, là, il faut accélérer un petit coup. Et donc, on va traiter un chapitre d'un coup parce que le chapitre 15, ça sera plus compliqué de faire la même chose. Il y a du matériel. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste savoir si vous avez des modèles dans votre vie. Quand je dis un modèle, ce sont ou c'est une personne que vous admirez, que vous suivez sur les réseaux sociaux ou des gens qui vous inspirent. Moi, personnellement, j'ai des modèles dans le jardinage. Je suis un permaculteur, un jeune permaculteur. Et c'est mon modèle parce que j'essaye de suivre ce qu'il dit pour planter mes petites graines au bon moment, etc. J'ai des modèles dans le sport, dans le bricolage, mais j'en ai aussi pour le ministère. J'ai eu le privilège de me convertir avec Florent Varac il y a 30 ans déjà. Et donc, Florent, c'est toujours resté un modèle pour moi. C'est pas mon idole, hein, parce que j'en ai d'autres, des modèles, mais en tout cas, je trouve qu'il est inspirant. Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez un modèle inspirant, un modèle spirituel, un homme ou une femme qui vous donne envie d'avancer, qui vous stimule dans votre foi, une personne à qui vous aimeriez ressembler? Ok. Alors, si ce n'est pas encore le cas, moi, je vous invite à bien écouter le message parce que on va observer deux personnages dans le chapitre 14 et personnellement, je trouve qu'ils sont inspirants, vraiment inspirants. Et bien que dans ce chapitre, Luc ne nous indique pas explicitement quelles qualités il faut posséder pour le servir, c'est un texte narratif, hein, donc non normatif. Eh bien, quand même, Luc nous présente deux serviteurs fructueux qui sont Paul et Barnabas et qui peuvent nous inspirer. C'est en tout cas mon souhait ce matin et je prie que leur vie, leur humilité, leur intelligence, leur souplesse, leur intégrité, leur persévérance, leur zèle inspirent nos vies et surtout notre désir de servir Dieu. Et donc, j'ai relevé au travers de ce récit huit, comme ça, huit qualités pour être un serviteur de Dieu fructueux. C'est des qualités qui sont, à mon avis, imitables et souhaitables pour tous les croyants. Donc, si vous êtes assis et que vous êtes un frère ou une sœur dans la foi, alors ce message, ces huit qualités sont à développer. Vous connaissez les qualités d'un ancien? Eh bien, un ancien ne fait que refléter un chrétien modèle. Et vous vous dites peut-être, ah oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour les anciens, mais on doit tous être irréprochables. La Bible dit clairement, tous, et c'est pas seulement les anciens. Eux, c'est une obligation. Donc, mais on devrait avoir pour modèle des grands frères et des grandes sœurs. Et donc, ce matin, on va regarder ces huit qualités. Et la première, je vous laisse deviner laquelle ça peut être. Vous avez lu, comme moi, le texte, parce que je vous l'ai envoyé cette semaine. Tout le monde a lu bien attentivement le texte, non? Non. Ah, merci, merci. Il y en a deux qui ont lu le texte. Ça m'encourage. Alors, ce matin, on va lire déjà les sept premiers versets au verset. Et donc, c'est la première qualité. La première qualité d'un serviteur fructueux, c'est qu'il annonce fidèlement l'Évangile. On lit au verset 1, à Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur, et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se partagea en deux camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre. Mais ceux-ci, dès qu'ils en furent informés, cherchèrent refuge dans des villes de Lycaonie, Lystre, Derbé et les environs. Là aussi, qu'est-ce qu'ils faisèrent ? Ils annoncèrent l'Évangile. Je trouve ça absolument incroyable. Et c'est ce que j'aimerais relever ici, c'est l'intentionnalité de Paul et Barnabas. Vous avez vu, au verset 1, ils parlèrent de telle sorte que beaucoup de juifs et de non-juifs devinrent croyants. C'était la première chose qu'ils faisaient quand ils arrivaient dans une ville, ils parlaient de l'Évangile pour amener des gens à la foi. Regardez le verset 3, ils parlaient avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce. Donc ils annonçaient un message de grâce. Et au verset 7, on vient de le lire, ils annoncèrent l'Évangile là aussi. Oui, ils sont pourchassés, ils sont obligés de fuir. Et qu'est-ce qu'ils font là où Dieu, quelque part, permet qu'ils aillent ? Ils continuent d'annoncer l'Évangile. Ils ne s'arrêtent pas, en fait. C'est comme s'ils étaient en marche, en permanence, et qu'on ne puisse pas arrêter les piles. Vous voyez, un robot qui parlerait tout le temps, il faut lui enlever les piles à un moment donné pour qu'il s'arrête de parler. Et ils vont y arriver pendant quelques minutes. On verra juste dans ce récit que certains vont réussir à arrêter les piles de l'apôtre Paul. Il fallait y aller fort. Hein. Mais vous allez voir, ça marche. À coup de pierre, on peut arriver à arrêter un robot. Sauf quand l'Esprit de Dieu est avec lui. C'est plus compliqué que ça. En fait, on voit que Dieu a équipé Paul et Barnabas pour annoncer l'Évangile. C'était leur ministère. Paul le dit, hein, je ne peux pas faire autre chose qu'annoncer l'Évangile. C'est un fardeau que Dieu a mis sur mon cœur. Et donc, quelque part, lui, il était pressé de cette manière-là. C'était un fardeau, un poids, une consécration qu'il avait de devoir prêcher l'Évangile aux païens, mais aussi à ses compatriotes juifs, parce qu'il était juif, et donc il avait une sensibilité particulière vis-à-vis de ses compatriotes et de la nation juive. Et l'apôtre Paul et Barnabas n'allaient pas dans des villes comme ça au gré du vent. Même s'ils ont pris le bateau quelquefois, ce n'est pas le vent qui les amenait, ils n'étaient pas des girouettes et ils ne se tournaient pas comme ça, « Tiens, on va aller là aujourd'hui, on fait un peu de tourisme. » Non, non, non. Ils avaient une stratégie vraiment clairement définie. Et donc, ils avaient tout un parcours. Alors, parfois, ils se sont pris des murs. Ça a été le cas ici. Ils ont commencé à annoncer l'Évangile et boum, ils se font éjecter de la ville à coups de pierre. Donc là, quand on n'a pas le choix, eh ben, ils fuient. Tout simplement. Et il ne faut pas hésiter, hein, si ça vous arrive, quand les gens ne veulent pas de l'Évangile, les amis, n'insistez pas. Ils ne sont pas prêts, tout simplement. Un jour, peut-être, ils viendront. Regardez l'apôtre Paul. Il était loin de pouvoir accueillir l'Évangile avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Il persécutait les chrétiens, ce n'était pas le moment. Sauf qu'à un moment, Dieu intervient. Et là, ça change tout. Eh bien, c'est la même chose avec nos amis. Peut-être qu'ils vont vous rejeter. Eh bien, ce n'est pas le moment, tout simplement. N'insistez pas. On n'est pas en période de croisade. On n'a pas à imposer notre foi, on a à proposer Jésus, à proposer la meilleure solution qu'on puisse leur apporter dans leur vie, mais ils n'en veulent pas. On ne peut pas les forcer. Et on ne peut pas donner à un âne qui n'a pas soif, on ne peut pas le faire boire. Je ne peux pas traiter les autres d'ânes, hein, mais le principe, c'est que on ne peut pas forcer les gens s'ils ne sont pas préparés pour ça. Et Dieu est en train d'œuvrer dans le cœur des uns et des autres, et à un moment donné, le déclic va peut-être pouvoir se faire. On ne sera peut-être plus là. Peut-être que nous, on sera décédés, et la personne va se convertir après notre décès. Ça, c'est encourageant pour ceux qui persévèrent, qui prient et qui ne voient pas les choses bouger, parce que ça peut changer. Il y en a qui, dans cette salle, savent comment ça se passe juste avant la mort. Quelques semaines avant la mort, eh bien, le Seigneur intervient dans la vie et la personne se tourne vers Dieu. Et je regarde Christine ici, sa maman, ça a été son cas et c'est génial. Mais, les amis, on ne peut pas forcer les choses. Vous avez vu ici que le verset 3 dit que le Seigneur confirmait la vérité du message de sa grâce. Et ça, c'est le message qui dérangeait. Parce que la plupart des humains pensent qu'il faut faire des choses pour acquérir le salut. Pour pouvoir accéder à Dieu, on va faire des choses. On va avoir une meilleure moralité. On va s'ajouter des restrictions à notre vie. On ne va pas boire trop d'alcool. On va essayer d'être honnête. Vous voyez, on va faire toutes sortes de bonnes œuvres en se demandant si peut-être que Dieu il m'acceptera. J'ai quand même pas fait autant de bêtises que les autres. Mes amis, si vous raisonnez comme ça, vous avez tout faux. Tout faux. Parce que l'évangile ne se mérite pas. C'est un cadeau offert. C'est gratuit. Dieu nous l'offre. Si moi, je vous offre un cadeau et que derrière, vous sortiez votre carte bleue et que vous me disiez « Combien je te dois, Franck ?» C'est que vous n'avez pas compris que c'était gratuit. Et donc, ce message, il dérange. Parce qu'on veut contribuer quelque part. On veut aider Dieu. Mais non, il te dit non. Surtout, ne m'aide pas, tu es en train de m'offenser là. Accepte ce cadeau par la grâce. La seule chose que tu peux faire en échange, c'est me faire confiance. Place ta confiance en moi. Fais-moi confiance. Avance par la foi. Et là, tu verras, ta vie va changer. Bien sûr, ton éternité, ta destinée va changer aussi radicalement. Mais tu vas marcher par la foi tout au long de ta vie en me faisant confiance. Et ça, c'est un message radicalement différent de tout ce que vous trouvez, sans exception, dans le monde. On vous annonce toujours un message où vous devez contribuer, soit financièrement, soit avec vos œuvres, soit d'une quelconque manière, mais vous devez contribuer. Mais là, Dieu nous dit non, surtout ne fais rien. J'ai déjà tout fait à ta place. On l'a chanté tout à l'heure. Tout est accompli. Jésus a tout fait à la croix. On n'a besoin de rien rajouter. Il suffit de saisir son cadeau par la foi, de placer notre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix. Et là, il change radicalement. Et c'est ce message-là, les amis, que nous sommes censés annoncer à nos amis. Et l'apôtre Paul l'a fait fidèlement tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Jésus l'a fait tout au long de sa vie. Jésus, Paul, Barnabas, et on pourrait prendre beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament. Eh bien, mes amis, c'est ce qui fait la qualité d'un disciple de Christ, d'un serviteur qui est fructueux. C'est qu'il est constamment en train de se renouveler et de parler de son maître. Quand vous êtes avec vos collègues de travail, j'imagine que vous avez des discussions sur vos centres d'intérêt. Certains vont parler de moto, je regarde Mathieu. D'autres vont parler tricot. D'autres vont tricot ou couture, n'est-ce pas? Ou chaussures, mesdames. Pas toutes. Mais on a tous un centre d'intérêt et on le fait naturellement, facilement. Si nous avons une relation authentique avec Jésus, si on l'aime, si vous aimez votre époux ou votre épouse ou vos enfants, vous allez en parler dans la conversation. À un moment donné, ça arrive. C'est pas systématique, mais forcément, à un moment donné, on en parle. Eh bien, Paul, Barnabas et tous ces autres personnages qu'on voit dans le Nouveau Testament aimaient Jésus. Ils avaient une relation profonde avec lui. Ils interagissaient en permanence avec lui. Ils priaient leur Seigneur. Ils faisaient confiance. Et donc, ils en parlaient naturellement. Ils ne se forçaient même pas. Ils ne se disaient pas « Ah, il faut que j'évangélise mes voisins ». Non, non. Tu vas parler de Jésus parce qu'il fait partie de ta vie. Et voyez, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire, les amis. Ce n'est pas des actions d'évangélisation. On s'en fiche, et même Dieu s'en fiche, je vais vous dire honnêtement. Ce qu'il veut, c'est des gens authentiques. Des gens qui l'aiment et qui rayonnent simplement par leur joie de vivre, qui rayonnent par leur intégrité dans le travail, qui rayonnent là où ils sont, sans gémir, sans se plaindre, comme la plupart de ceux qui vous entourent. Voyez, c'est ça en fait. Être différent, être le sel de la terre. Et c'est juste ce que le Seigneur nous demande d'être ces lumières qui brillent, qui sont visibles. Mais il veut que ça soit naturel. Ça, c'est la première qualité d'un serviteur de Dieu. Annoncer fidèlement l'évangile. Deuxième qualité, il utilise efficacement ses dons spirituels. Et c'est le verset 8 jusqu'au verset 10 où l'on voit ça. Il dit « À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte « Lève-toi !» ou « Lève-toi !» et « Tiens-toi droit sur tes pieds !» D'un bond ! D'un bond ! Je refais ? Parce que le gars, il ne peut pas marcher depuis sa naissance, les amis. Il n'a même jamais, probablement jamais, mis un pied devant l'autre. Il n'a même pas le réflexe de marcher. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ben bon, il fut debout et se mit à marcher. C'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer ici. Quand on dit que le livre des Actes, c'est mieux qu'une série Netflix, on assiste ici, et ça c'est du vrai, hein, c'est pas du fake, c'est pas un film, c'est ce qui s'est réellement passé. Là, on a un homme qui marche comme ça, d'un coup. Alors moi, j'ai essayé avec des amis handicapés sur un fauteuil roulant, je ne l'aurais pas dit, hein, mais j'ai prié, « Seigneur, fais un miracle !» Eh bien, ils ne sont pas levés du fauteuil. Même pas en se levant avec difficulté et puis en essayant de marcher, même pas. Vous avez probablement entendu parler de soirées de guérison et miracles. Hein, j'ai juste tapé « Soirée guérison et miracle, Genève ». Alors, il y en a d'autres, là, c'est dans la région, hein. C'est plus large que Genève, ça va même jusqu'à Paris, mais juste en français, mais en anglais, c'est encore multiplié par 10, en brésilien, mes amis, c'est par 1000. Soirée guérison et miracle, on trouve ce genre de choses et c'est attrayant. Même des authentiques croyants se laissent entourlouper par ce genre de soirée. On vous annonce que dans cette soirée, il va y avoir des guérisons et des miracles. Comme si on pouvait commander à Dieu, tiens, aujourd'hui, on est le combien ? On est le 10. Aujourd'hui, 10 mars 2024, il va y avoir 12 guérisons, 4 résurrections, etc. On peut annoncer à l'avance, et autrement dit, on est en train de dire à Dieu, voilà ce que tu dois faire comme miracle. Ça ne marche pas comme ça dans la Bible. Hein. Même Paul n'a pas réussi à guérir le petit Timothée qui avait des maux d'estomac. Donc à un moment donné, Paul, il a fait des miracles extraordinaires. Celui-là en fait partie. On a vu qu'il avait déjà ressuscité un mort. Et là, il va donner des nouvelles jambes à cet homme qui était de naissance privé de marche, privé de pouvoir, de mobilité. Donc ce n'est pas un petit miracle qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de petit miracle. C'est un miracle. Et pour Dieu, c'est rien. Honnêtement, c'est rien. Quand on a créé l'univers, guérir les jambes de quelqu'un, c'est pas grand-chose. Sauf que là, il utilise une personne. Et il y en a qui regardent l'apôtre Paul et qui disent « Mais moi, j'ai l'autorité d'un apôtre. Et donc, je vais faire la même chose. » Et donc, ils annoncent par ce genre de soirée des miracles. Vous voyez ici cette femme, c'est Johnny Tada Erickson. À 17 ans, elle a été victime d'un accident qui l'a laissé tétraplégique. Il y a un film qui s'appelle Johnny, que vous pouvez voir, il date un petit peu, mais qui relate un petit peu ce qui s'est passé et la confiance qu'elle a fait. Cette femme, elle a eu un ministère, et elle est encore vivante, hein, elle a eu un ministère extraordinaire sur son fauteuil. Elle a pu prêcher l'évangile à des millions de personnes, sans même compter Internet. Uniquement à des foules, des stades de foot. Et elle a eu un ministère extraordinaire. Dieu a utilisé son handicap qui n'a pas été souhaité. Il l'a utilisé pour sa gloire. Mais au début de sa foi, cette femme espérait être guérie, espérait être sauvée. Et donc, elle est allée dans ce genre de meeting qui aux États-Unis, c'est des choses grandioses. Et donc, on amène des dizaines de personnes, mais on ne les fait jamais rentrer par la porte principale. On les fait toujours rentrer par derrière. Et donc, on les place sur le côté de la scène, jamais au milieu, face au projecteur. Et puis, bien sûr, il y a l'évangéliste qui va faire son business, c'est comme ça que je l'appelle, parce que ce n'est pas autre chose, qui va prêcher l'évangile. Et puis, à un moment donné, il va dire à certaines personnes... Dieu t'a guéri, etc. Bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Elle, elle a été victime de ces évangélistes. Regardez ce qu'elle dit. « Un nombre incalculable de personnes m'avaient imposé les mains et je me disais, c'est vraiment bien parce que cela veut dire qu'on tente le nécessaire. Toutes les mesures imaginables, des pasteurs qui vous imposent les mains, l'huile, les prières et les péchés que je confessais, j'ai tout essayé. Je me rendais là-bas, m'imaginant que Dieu avait aplani le chemin, préparé la scène et que j'allais pouvoir rouler jusqu'à l'estrade et que le miracle allait arriver. » Mais rien ne s'est passé. Pendant très longtemps, j'ai été incapable de comprendre pourquoi mes mains et mes jambes ne recevaient pas le message que mon esprit leur envoyait. Je me rappelle les regards que je portais à mes membres, comme s'ils étaient distincts de ce que j'étais et de ce que je pensais. Mon cœur et mon esprit disaient « Tu es guéri, mon corps !» Je voulais m'assurer que j'avais la foi avec un grand F. Fin de citation. Et comme elle n'était pas guérie, vous savez ce que lui ont dit les gens ? Ils lui ont dit qu'elle avait un péché non confessé. D'autres, qu'elle s'était résignée à ne pas être guérie. Mais quelle cruauté, les amis ! Quelle cruauté ! Vous savez que ça, c'était il y a quelques dizaines d'années. Alors, il y a toujours, bien sûr, ce genre de soirée qui s'organise. Mais aujourd'hui, on a des spécialistes de la tricherie, des spécialistes non chrétiens qui ont passé ce genre de rencontres à la loupe, qui sont même allés voir ce qui se passait, et leurs conclusions sont sans appel. Ici, je fais appel à monsieur Derren Brown, à mince. Ah, il est là, c'est ça. Derren Brown, lui. Cet homme est un illusionniste, mentaliste et hypnotiseur anglais. Il est connu pour faire des spectacles sur la chaîne britannique Channel 4. Et donc, lui, il a fait une série de vidéos qui s'intitule « Miracles for Sale », donc « Miracle à vendre ». Et donc, il a pris plusieurs mois, donc c'est vraiment, il a formé quelqu'un pour montrer qu'on n'était pas obligé d'être chrétien pour faire ce que ces gens faisaient et qu'il n'y avait même pas besoin de la foi. C'était toute une question de packaging. Et donc, ce qu'il a fait avec des techniques d'hypnose, parce qu'il les a observées, hein, de l'autosuggestion, et aussi le fait de créer une ambiance qui va générer beaucoup d'adrénaline, eh bien, il voit que pendant ces rencontres, parce que ces gens utilisent ces techniques, les télévangélistes, hein, pas lui, lui, il les a utilisées pour montrer qu'il y avait une supercherie. Et que finalement, même si on pouvait être sincère, ils utilisaient toutes ces techniques, et que ce n'était pas vraiment des miracles qu'on voyait, mais des améliorations ponctuelles, instantanées. Et il le dit, il dit en fait, quand moi je peux, et il pourrait le faire là, dans notre salle, quelqu'un qui a mal au dos, avec de l'autosuggestion, en vous hypnotisant d'une certaine manière, vous seriez conscient, mais vous allez répondre ce que lui veut que vous compreniez. Et puis surtout, il va, avec l'ambiance, la musique et toutes sortes de choses, et puis des effets, comme ça, on parle d'un coup dans le micro, on fait un bruit. Vous voyez, ce genre de petites astuces montrent, et il le démontre, que finalement les gens vont sur scène, « Ah, mais oui, j'ai plus mal au dos, maintenant je peux toucher mes pieds, c'est génial !» Oui, sauf que l'effet dure quelques heures, voire quelques jours. Mais à la fin de la semaine, ces gens retrouvent leur handicap. Et c'est pour ça que vous voyez parfois, et on ne peut pas dire que c'est faux, parce que c'est une réalité, des gens qui sont sans un fauteuil roulant ou avec des béquilles, et puis vous les voyez, oh, ils jettent leurs béquilles. Et puis, on les voit qu'ils marchent difficilement. Ah, on se dit, tiens, il est guéri. Ah oui, il n'a plus ses béquilles. Oui, mais pas vraiment. Il a simplement eu une amélioration spontanée, instantanée, mais ce n'était pas du tout une guérison. Et la semaine d'après, vous les revoyez à la même réunion en train de demander la prière. J'en ai connu tellement comme ça. Fausse guérison, faux évangéliste, manipulateur. Mes amis, Paul, lui, il avait un vrai don. Et ce don-là, il ne le gardait pas pour lui, il le mettait au service de l'Église. Et regardez ce que dit 2 Corinthiens 12, verset 12. Ça faisait partie du package d'un apôtre. Il a reçu le don d'apôtre. Ça, c'est un don de personne, comme le fait d'être pasteur, docteur ou évangéliste. C'est un don de personne. C'est ce qu'on appelle un domata. Et ensuite, dans ce domata, il y a des charismata, des charismes. Vous voyez, des facultés, des capacités que Dieu nous donne. pour les apôtres, il y avait une capacité, plusieurs, regardez. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Ça, c'est déjà un premier signe. Mes amis, si quelqu'un se dit apôtre et que vous voyez qu'il vous envoie bouler dès que vous posez une question, vous vous dites, toi, tu n'as pas le don d'apôtre. Mais ce n'est pas le seul, regardez, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est la marque d'un véritable apôtre. Et ce qu'on voit ici, au chapitre 14, mes amis, c'est un véritable miracle. Ce n'est pas une petite amélioration. On ne peut pas améliorer quelqu'un qui a des jambes complètement figées, qui n'a jamais marché de sa vie. Il saute d'un bond. Là, on sait qu'il est vraiment guéri. Et ensuite, il marche. C'est pas, vous voyez, c'est pas un balbutiement. Non, non, il est totalement guéri, instantanément guéri, définitivement guéri. Ça, c'est un miracle véritable, authentique. Et Dieu peut encore faire des miracles comme ça, mais il n'utilisera plus les apôtres. Pourquoi ? Eh bien, vous avez vu que dans notre texte, il est clair que pourquoi il faisait des miracles ? C'est pour valider le message, pour authentifier le message de la grâce. Regardez ce qu'il dit, c'est dans notre texte. « Car ils étaient confiants dans le Seigneur, et celui-ci, donc le Seigneur, confirmait la vérité du message de sa grâce. » En faisant quoi ? En donnant d'accomplir, en leur donnant, donc aux apôtres, en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Aujourd'hui, on est, il n'y a plus d'apôtres, mes amis, parce que ce message, il est écrit dans vos Bibles. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, il est là. Donc Dieu va utiliser quel vecteur pour nous guérir ? Eh bien, parfois il intervient directement sans nous. Il peut guérir une personne, et j'en ai entendu qui m'ont dit « un jour je me suis levé, j'étais plus malade ». Amen. Génial. Mais bien souvent, il utilise la prière. La prière des justes a une grande efficacité. Donc il va nous utiliser, vous utiliser. C'est pas pour rien qu'on prie tous les mardis, les amis. Nous, on prie avec l'espérance que Dieu guérisse. Là, il y en a qui vivent un cancer. Dieu va utiliser la prière et les médicaments. Parfois, il n'utilisera que la prière, mais il va utiliser et la prière et les médicaments, et la chirurgie, et les traitements de chimiothérapie. Dieu va utiliser tous les vecteurs que nous avons. Regardez l'apôtre Paul, il dit à Timothée, « Je ne vais pas te guérir cette fois-ci, mon ami. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. » Enfin, il n'a pas dit ça, mais en tout cas, il lui a dit, bah, « Prends un peu de vin, mets du vin dans ton eau. » Oui, peut-être que l'eau était passée pure. Il avait des maux d'estomac, Timothée. Il aurait pu le guérir. Non, non, prends un médicament. C'était un médicament à l'époque. Donc, prends un médicament. Donc, vous voyez, Dieu va utiliser ce genre de vecteur. Et bien sûr, Jacques, chapitre 5, verset 16, nous offre la possibilité de l'onction d'huile des anciens. C'est juste symbolique. L'onction d'huile n'est pas magique, d'accord ? Mais c'est en rapport avec la prière des anciens. Et puis, ben, Dieu peut utiliser ce vecteur pour nous guérir. Ou il peut faire comme avec cette dame, avec Johnny, nous laisser dans notre handicap, mais à ce moment-là, il nous donnera une grâce particulière et il va nous utiliser dans notre état tel que l'on est. Si Dieu ne nous guérit pas, c'est qu'il a un plan particulier pour nous équiper et nous utiliser dans la maladie. Vous qui êtes souvent à faire avec des chirurgiens ou des médecins ou des on dit des physiothérapeutes en Suisse, en fait, peut-être que Dieu veut vous utiliser avec ces gens-là. Parce qu'il se dit, mais moi, à sa place, je serais déprimé. Mais vous, vous avez le Seigneur. Peut-être que vous avez un super témoignage à donner dans votre handicap. Parce que vous, vous ne le vivez pas tout seul. Vous le vivez avec Dieu et avec vos frères et sœurs qui vous soutiennent. Et là, l'Église a toute son importance. Vous n'êtes pas tout seul. Et si vous souffrez, ne souffrez pas tout seul dans votre coin, s'il vous plaît. Faites-le savoir, faites-le nous savoir, on va vous entourer, on va vous accompagner, parce que c'est notre ministère en tant qu'Église, d'accompagner les plus fragiles et les plus faibles. Allez, j'arrête sur ce point, mais vous voyez que Paul utilise les dons que Dieu lui a donnés, il n'y a pas que celui-là comme don, on le voit par la suite, le don d'enseignement, bien entendu, il va fortifier l'esprit des disciples, ça c'est au verset 22, mais on va le lire dans quelques instants, et le don d'exhortation, il va exhorter aussi avec l'apôtre, avec Barnabas, qui lui était le fils d'exhortation, donc c'est sa spécialité. Exhorter quelqu'un, c'est pas l'enseignement, on va dire que l'enseignement ce serait plutôt intellectuel, ça va toucher le cœur, mais celui qui va exhorter va nous aider à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Vous voyez, ce don de donner envie d'appliquer la parole de Dieu avec joie. Bref, troisième qualité qu'on trouve dans le texte, c'est que un serviteur fructueux cherche humblement la gloire de Jésus et pas sa propre gloire. Ok, regardez ce que dit le verset 11. « Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, le lycaonien, « Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce qu'il était le porte-parole. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, ils s'apprêtaient avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Amis, mais que faites-vous là ? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. » Vous voyez, ici, il se passe quelque chose qui est juste incompréhensible pour nous. Quoique, ces gens voient ce miracle, ils connaissaient cet homme qui était là depuis tout le temps, qui ne pouvait pas marcher. Ils l'avaient vu et quand ils le voient debout et sauter, ils se disent « Mais waouh, mais qui sont ces gens ?» Et comme c'était des païens, qu'ils croyaient en des dieux, ils étaient polythéistes, eh bien, leur réflexe à eux, c'est de se dire « Ah, c'est pas explicable par la science, donc ça veut dire que c'est Dieu qui est là, Dieu qui est venu. » Donc, eux, ça les dérangeait absolument pas de voir dans des humains des dieux. Et donc, tout de suite, ils ont porté au nu l'apôtre Paul et Barnabas, et ils les ont comparés à Zeus. Et donc, Zeus, c'est celui qui est entre guillemets le créateur, et ensuite il a un porte-parole. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, je ne les ai pas croisés dans la rue, j'ai trouvé ces photos. Zeus, c'était chez les Grecs, et en fait, vous avez peut-être dans vos Bibles marqué Jupiter. J'ai regardé dans le grec, c'est bien le mot Zeus qu'il y a, mais c'était l'équivalent, c'est une équivalence chez les Romains, c'était Jupiter. Et Hermès, c'était le porte-parole de Zeus, d'accord ? Et donc lui, c'est Mercure chez les Romains, c'était Hermès chez les Grecs. Et donc, ils ont attribué à Paul le rôle d'Hermès. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, je croyais que c'était le leader, j'aurais plutôt mis à la place de Zeus. Sauf que, on sait que chez les Grecs, Hermès était le porte-parole. Et qui c'est qui parlait la plupart du temps ? L'apôtre Paul. Et donc, ils ont attribué à l'apôtre Paul l'identité, ils l'ont identifié à Hermès et Barnabas à Zeus. Voilà, ça s'explique en fait. Et donc tout de suite après ça, on se dit, mais tiens, c'est marrant, c'est la question que je me suis posée, mais qu'est-ce que toi tu aurais fait si les gens t'avaient porté au nu comme ça ? C'est assez flatteur quand même. Hein ? Du jour au lendemain, tu t'appelles Franck Segonne, tu es un petit pasteur d'une église, tu deviens star. La star de Genève, ou la star de je sais pas qui, mais en tout cas, tu deviens une étoile, t'es admiré, t'es adulé même. Et donc, on pourrait être tenté, et la plupart des pasteurs comme moi, on a un privilège, c'est que nous, on assiste à des choses spectaculaires de la part de Dieu. J'assiste pas toujours à des miracles physiques, mais à des miracles spirituels. Quand je vois une personne qui est loin de Dieu, qui en veut à Dieu, et qui, à un moment donné, alors que j'ai simplement prêché l'évangile, te regarde dans les yeux, se met à pleurer et se dit « Waouh, je comprends que je suis pécheur, je veux changer. » Et toi, tu es là et tu dis « Waouh, ah, ah, c'est moi qui ai fait ça ? » Ben, j'ai étudié la Bible, c'est moi qui ai prié pour elle, c'est moi qui lui ai annoncé la Bible, c'est moi qui ai fait l'étude biblique avec elle. Vous voyez, on pourrait s'attribuer les gloires, c'est tellement facile. Qu'est-ce que font Paul et Barnabas ? Stop ! Arrête-toi ! Arrêtez-vous, bande de fous, on n'est que des humains ! Arrêtez de nous aduler, on n'est que des hommes, on n'est pas des dieux ! Je trouve cette attitude remarquable. C'est qu'au lieu de s'attirer un petit peu les regards des autres, ils vont tout faire pour que Jésus ou que eux ne volent pas la vedette à Jésus. Ils veulent que ce soit Jésus qui soit central. Et ils vont replacer ça, mais immédiatement. Regardez, observez, et ils vont aller sur leur terrain. Et ça, c'est la quatrième qualité. Donc la troisième, ils cherchent humblement la gloire de Jésus. Ils ne s'attribuent aucune gloire. Et là, c'est dans la quatrième, ils vont s'adapter intelligemment à leur auditeur. Regardez ce qu'ils font. Verset 16, « Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté. » Car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Même en leur parlant ainsi, ils eurent beaucoup de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Ici, on voit que le message n'est pas adressé à des Juifs. C'est vraiment adressé à des païens, et c'est, avec Acte 17, un peu les exceptions que l'on trouve, parce que la plupart du temps, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul quand il arrive dans une ville ? Il va dans la synagogue. Il va dans une synagogue parce qu'il sait que les gens ici sont ouverts et qu'ils ont une attente spirituelle. Ils attendent un Messie. Et quel est le message de l'Évangile, si ce n'est... pour les Juifs en tout cas, mettre l'accent sur le Messie qui était attendu et qui est venu pour libérer les captifs. Pas pour libérer les Juifs de l'envahisseur romain, mais libérer des pécheurs de leurs péchés. Libérer des prisonniers, des gens accros à leurs péchés, des gens addicts. Il est venu les libérer de leurs péchés. Mes amis, c'est ce que Jésus est venu faire et c'est là-dessus qu'il va aller sur ce terrain-là. Vous voyez qu'à aucun moment, il leur parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Pourquoi ? Parce que ça leur passait largement au-dessus. Ça leur passait largement au-dessus. Par contre, il sait que Dieu s'est révélé d'une manière générale dans la création. Et c'est pour ça qu'il utilise ces artifices-là, enfin ces arguments, pas des artifices, mais des arguments. Il va utiliser l'argument naturel. Dieu est le Créateur, vous reconnaissez ces choses, vous les voyez, vous en bénéficiez, vous mangez des bonnes choses, vous pouvez les apprécier. Et il ne dit pas que c'est mauvais. Il dit, regardez, oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Donc, vous voyez, ça, c'est la grâce générale de Dieu, la grâce qui est couverte, qui couvre tous les humains, pas seulement les chrétiens. C'est une grâce abondante. Et Dieu la donne. C'est gratos. Mais c'est aussi un élément qu'on peut utiliser quand on parle de l'Évangile. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, il va le formuler différemment, mais il dit en gros la même chose aux Romains. Les Romains étaient aussi des païens. Et regardez ce qu'il dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tous les humains peuvent voir les perfections invisibles de Dieu. On peut le voir avec nos yeux. Cette création, elle est sous nos yeux. Quand vous regardez un petit bébé, là j'écoutais un podcast d'une personne qui n'est pas chrétienne, et en fait, elle disait, mais il y a une chose qui m'a bouleversée, c'est le jour où j'ai eu mon petit bébé dans les mains. Quand j'ai vu ce petit être, je me suis dit, waouh, mais qui suis-je pour avoir fabriqué ça ? En fait, elle a pris conscience que le petit bébé qu'elle avait dans les mains, qui était le sien, eh bien, elle n'avait rien fait pour créer son petit nez, ses petites oreilles, sa bouche, tout son corps, faire battre son cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste attendu que ça se passe. Ben, elle a un peu agi à un moment donné, mais elle n'a pas fait grand-chose d'autre. et on lui a donné un package comme ça, vivant, tout chaud. Oh ! Fantastique. Dieu se révèle aussi au travers de ces choses-là, mes amis. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un enfant, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais vous avez un miracle dans vos mains. Essayez de fabriquer, ne serait-ce qu'avec de la glaise, juste une petite poupée. Si je la regarde, je pense que je vais la regarder avec condescendance. C'est pas mal, peut mieux faire. Même si c'est Valérie qui le fait, je pense que je regarderai et je lui disais, bon alors maintenant c'est quand? Tu lui mets des piles? Comment tu fais pour qu'il bouge, qu'il pleure, qu'il mange et tout? Qu'il me sourit, qu'on discute? Ça, ça se fait pas comme ça, mais Dieu le fait. C'est juste extraordinaire. Et vous voyez, ici, il n'a pas affaire à des juifs, il va s'adapter. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. On doit, en tant que disciple, en tant que serviteur de Dieu, s'adapter, adapter notre message à notre contexte. Si on ne le fait pas, on va faire des boulettes. On va faire des boulettes. Regardez ce que dit Tim Keller. Il dit « Il n'existe pas de présentation de l'évangile universel et non culturel. On trouve dans les Écritures de nombreuses situations où les vérités de l'évangile sont annoncées dans des ordres différents, démontrées à partir de points de départ différents et appliquées aux personnes de façon différente. » Mes amis, les gens n'en sont pas au même niveau. Ils ne croient pas tous la même chose. Ils n'ont pas un degré de connaissance de Dieu identique. Et Genève est une ville assez cosmopolite. Et donc, on va trouver certaines tranches de population hyper ouvertes. Les Brésiliens, par exemple. Et des tranches de population hyper fermées. Les Japonais. Pourquoi je dis ces deux nationalités ? Parce que c'est statistique, en fait. Regardez cette grande enquête qui a été établie par Ipsos sur 26 pays dans le monde. C'est vraiment une grosse enquête. Et regardez les résultats. Voilà ce qu'ils disent. Et donc, ils sont arrivés à cette conclusion. C'est que 61% des gens de la planète, on va dire, ces 26 pays représentatifs de toute la planète. Eh bien, il y a 61%. Et ça, c'est une moyenne. 61% croient en Dieu ou à une puissance ou à un esprit supérieur. 61%. Et ça, ça comprend les 40% qui croient vraiment en Dieu, tel qu'il est décrit dans les Saintes Écritures. Alors là, ça comprend le Coran, la Torah et la Bible. Et ceux qui croient en une puissance ou un esprit supérieur. Là, ça représente 20%. Les athées, les véritablement athées, c'est seulement 21%. Et puis, on a les indécis. Je suis pas sûr. Ça, c'est les agnostiques. Presque, on pourrait les mettre aussi dans ces 61%. Là, on en aurait 12. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas se prononcer. Ils préfèrent ne pas dire. Mais autrement dit, je crois en Dieu, mais j'ai pas envie de vous le dire. Vous voyez? Donc, du coup, on pourrait rajouter ces 19%. On arrive à combien? 80. 19 plus 61. Si je sais bien compter, ça fait 80%. Ça veut dire 80% des gens de la planète, mes amis, croient en Dieu ou en un esprit. C'est juste énorme. Mais là-dedans, il y a des gens, et c'est qu'une moyenne, il y a des gens qui croient plus que d'autres. Regardez cette statistique, et c'est là, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu les chiffres, vous êtes loin. Ils ont repris exactement les mêmes critères. Et regardez en bleu et en vert le cumul des deux. Le premier, c'est les Brésiliens, les amis, ce sont les Brésiliens. 89% des Brésiliens croient en Dieu ou en une puissance supérieure. Regardez les Japonais, tout en bas, 19%. 19%. Il y a 70% d'écart. C'est juste monstrueux. Monstrueux. Et donc, on voit que quand si on devait annoncer l'évangile à un Japonais, mes amis, on n'utiliserait pas du tout la même approche qu'avec un Brésilien. Et ça nous donne une explication aussi pourquoi il y a tant de Brésiliens dans l'EIG. Et pourquoi l'Église grandit en grande partie grâce aux Brésiliens. Est-ce que vous pouvez lever la main tous ceux qui sont Brésiliens ou lusophones? Vas-y Marcos, n'hésite pas. Moi je compte environ un quart de l'EIG. Et ça grandit chaque jour. Et ça grandit chaque jour. Mais parce que vous êtes une population où Dieu, ça fait partie de la vie. Vous avez vu où sont les Français ? 44%. On est quasiment à la fin.
Les Français, c'est ici. 44%. 26% seulement croient en Dieu.
26% seulement croient en Dieu. Et le... 18... Attendez, excusez-moi. 26, et voilà, 18% pensent qu'il y a un être supérieur. Par contre, les athées, alors là, ça représente une sacrée bonne quantité, 37%. Il y a 37% d'athées en France. Donc vous voyez que c'est quand même pas du tout la même approche qu'avec des Brésiliens. Il y a une suspicion qui est là, il y a de, peut-être même pas de l'indifférence, alors oui, il y a de l'indifférence, mais peut-être même de la révolte contre la religion. Et nous, on a un passif en tant que Suisse, en tant que Français. Il n'y a pas la Suisse, je suis désolé. Hein. Je n'ai pas trouvé la Suisse, probablement que pas assez représentatif en nombre. Mais on peut l'assimiler à la France, hein, parce que nos cultures sont similaires. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on n'annonce pas l'évangile de la même manière à un Suisse qu'à un Japonais, qu'on l'annonce à un Brésilien. Il faut s'adapter. Et c'est exactement ce qu'ont fait l'apôtre Paul et Barnabas. Allez, cinquième qualité, on va accélérer ici. Cinquième qualité qu'on a chez un serviteur fructueux. Il persévère courageusement dans l'épreuve. Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lancèrent des pierres contre Paul pour le tuer, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville le lendemain, et il partit avec Barnabas pour Derbe. Et là, on se dit, waouh, c'est impressionnant, non ? Paul, il est laissé pour mort. Je pense qu'il devait être légèrement ensanglanté. Quand on a pris des dizaines de cailloux sur la tête, je pense qu'on n'est pas beau à voir. Et donc, probablement qu'il a dû tomber par terre. Ils ont mis des coups de pied dans son corps. Ils ont dit, il ne bouge plus, il est inerte, c'est bon, on s'en va. Et là, bien sûr, certains chrétiens qui étaient là, ou des gens en tout cas sensibles, ont voulu lui donner un enterrement digne. Et donc, ils se sont approchés. Et puis là, entendant leur voix, sachant qu'ils étaient plus loin, hop, l'apôtre Paul se relève. Il se réveille et il se relève. Est-ce qu'il faisait semblant ? On ne sait pas. Est-ce qu'il était vraiment mort et que Dieu l'a ressuscité ? Le texte ne le dit pas. Normalement, Luc l'aurait relevé si ça avait été le cas. Et donc, là, probablement que l'apôtre Paul souffrait, qu'il était, oui, qu'il a été vraiment martyrisé, comment dire, morcelé dans son corps, je ne sais pas si ce n'est pas le bon terme, mais vous voyez, il a souffert, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait ? Première des choses, il se relève, il marche et il s'en va. Et il part le lendemain matin. Mais vous imaginez ? Mais moi, j'aurais resté 15 jours au lit avec les petits soins de la glace, de l'arnica, des granules d'arnica, enfin la totale, quoi. Non, non, pas le temps. Il faut qu'on annonce l'évangile ailleurs, les amis. Ils ne veulent pas de nous ici. Hein. Je crois que j'ai compris la leçon. Vous avez vu ça ? C'est incroyable ce que l'apôtre Paul fait ici, la persévérance dans l'épreuve. Il ne se décourage pas parce qu'il a affaire à des gens difficiles. Vous savez, j'ai eu des gens qui ont voulu me casser la figure. J'ai de la chance, je fais 1m90. Mais sinon, je pense que j'aurais bien ramassé. Il y a des gens méchants, il y a des gens qui nous en veulent. Dans ces cas-là, il faut faire plutôt comme il l'a fait. Mais là, ils l'ont pris par surprise. Hein. Ils sont arrivés à plusieurs, vous avez vu, ils ont débarqué des autres villes. Alors qu'il avait annoncé l'évangile, il y a des gens qui sont convertis. Ouh, la maille a des copains, c'est pas mes copains. Et oui, ça lui est arrivé aussi. Et Dieu ne l'a pas protégé. Mais Dieu a utilisé cela pour sa gloire. Il a permis qu'il prenne un jet de cailloux. Il l'a permis. Mais ça n'a pas arrêté l'apôtre Paul pour autant. Sixième, on avance vite là maintenant, hein. Il fortifie soigneusement la foi des disciples. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, vous avez vu ? Donc il change de ville parce qu'il se fait caillasser, Et là, il annonce l'évangile à la ville d'après, et boum, des gens se convertissent. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. En fait, il refait le parcours à l'envers. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fortifier les disciples et les encourager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai pas ce réflexe, honnêtement, quand j'ai des jeunes convertis, de leur dire « Écoute, tu vas souffrir. » Pourtant, le message, là, c'est à des jeunes convertis qui l'adressent. Il leur disait « C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » On rentre par la foi, mais notre foi va amener la souffrance. C'est ça, hein. C'est pas « Je vais me flageller pour mériter mon ciel. » Absolument pas. Non, 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 tu rentres par la foi, Dieu t'a sauvé, et par contre, à partir du moment où tu as la foi, tu vas essuyer des critiques, et ça va être compliqué, la vie. On ne va pas forcément avoir une lapidation, quoique, on pourra avoir des lapidations médiatiques, au travail, vous voyez, des lapidations violentes, hein, avec des mots, on peut faire mal. Peut-être que ça pourra arriver aussi un jour physiquement, peut-être. Mais mes amis, il faut avertir ceux qui se convertissent. Et si vous êtes jeune converti, vous allez vivre des difficultés. Il faut qu'on vous le dise. Aujourd'hui, on annonce un évangile un peu light en disant « Bah, écoute, viens au Seigneur Jésus, tu verras, c'est génial, on a une super église, on va prendre soin de toi, ouais, on va t'amener de l'arnica quand tu vas prendre des cailloux. » C'est ça qu'on devrait dire, en fait. C'est difficile, la vie chrétienne. Et ce n'est pas une phrase isolée, les amis. Regardez ce que dit Paul à Timothée. Il dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Jésus l'a abondamment rappelé à ses apôtres. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas plus grand que le maître. Vous n'êtes pas plus grand que le maître. » Donc il faut s'y attendre, mes amis. Et donc notre rôle en tant que disciples, c'est de fortifier la foi des jeunes disciples, de ceux qui sont le plus fragiles. C'est un de nos rôles. Septième qualité, il responsabilise rapidement les chrétiens. Et ça, c'est un truc un peu étrange au premier abord. Regardez ce qu'il dit. Mince, j'ai pas mis le verset. Verset 23. Dans chaque église, ils firent élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Imaginez, ils viennent, ils annoncent l'évangile, il reste quelques jours, peut-être quelques semaines, et tout de suite, ils leur demandent de mettre des responsables en place, des anciens. Et on se dit, oh, Paul, qu'est-ce que tu nous fais là? On doit pas, un ancien ne doit pas être un jeune converti. Ouais, la plupart du temps. Sauf que là, on est en implantation d'église. Et que donc, il va faire quoi? Il va prier, il va jeûner. Seigneur, c'est qui le plus mature dans ce groupe-là? C'est qui le plus mature? Parce que si on s'en va, les gens vont se disperser. Le diable va venir et il va faire ce qu'il veut. Et vous avez entendu parler de plein de groupes de chrétiens, hein, des gens qui quittent une église ou qui volontairement vont à... Et ils ne structurent pas, on ne veut pas de structure. Ah ok, dans 10 ans, il n'y a plus rien, les amis. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la sagesse de structurer, d'organiser l'Église pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se fortifie. Et les anciens, eh bien, doivent prendre soin des plus fragiles. C'est ma priorité dans l'Église. Vous le savez, vous qui êtes jeunes dans la foi, je prends soin plus de vous que ceux qui sont matures dans la foi. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin du lait maternel. Parce que vous êtes parfois inconscient. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Parce que des fois... Vous ne voyez pas le danger. Et donc, nous, on est là. Je suis là pour vous dire, ah, peut-être que tu ne devrais pas aller sur ce site. Il y a du bon et du moins bon. Si tu veux t'empoisonner, continue. Donc, on est là comme conseiller. On est là pour vous accompagner. On ne peut pas être toujours derrière vous. Mais on est là vraiment pour vous protéger, en fait. Et donc, c'est vraiment le rôle des responsables de protéger le troupeau de l'ennemi et de son propre ennemi, de sa propre chair. Souvent, un jeune disciple n'a pas conscience de ses fragilités, de ses faiblesses, de son péché même. Et donc, on est là pour lui expliquer, pour lui rappeler. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des anciens dans une église. Si on est tous au même niveau, à un moment donné, on ne va pas se tirer vers le haut, hein, on va se tirer vers le bas. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, pour pérenniser l'œuvre de Dieu, Dieu nous demande de structurer. Et c'est ce qu'on veut faire ici. Et c'est compliqué, les amis. Nous, on n'est pas en implantation d'église, mais de trouver des anciens, de former des anciens. Parce que ça prend du temps de former un ancien. Et Paul dira plus tard dans 1 Timothée 3, dans une église plus stable, c'est à Éphèse, que ce ne soit pas un jeune converti. Il faut qu'il ait un bon témoignage. Vous voyez, il faut qu'il y ait une vie chrétienne installée. Là, on était en implantation d'église, c'était différent. Huitième et dernière qualité, ouf, vous dites, ça y est, là, enfin terminé, moi aussi. Il présente humblement le fruit de son travail. Et là, bon, je ne veux pas tout raconter, j'arrive au verset 25. Alors, arrivés, ils réunirent les membres de l'église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. L'apôtre Paul et Barnabas auraient très bien pu se vanter de tout ce qu'ils avaient fait, de tous les miracles qu'ils avaient fait, et en mettre plein la vue à l'église. Vous avez vu là où est le sujet ? Qui est-ce qu'ils mettent en avant ? Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas dit ce qu'eux n'avaient pas fait, mais regardez qui est en avant. Ce que Dieu avait fait avec eux. Ils ne sont que des collaborateurs. Ok ? Donc, trop d'humilité, c'est de l'orgueil. Pas d'humilité, c'est de l'orgueil. Donc, le juste milieu, tu mets Dieu en avant et tu peux dire ce que tu as fait. Ok ? C'est ce qu'on voit ici. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et ils exposèrent en particulier comment Dieu avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et vous voyez pourquoi on ne doit pas faire de forcing ? Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes de la foi. Quand vous priez pour une porte ouverte, c'est le cœur, hein, dont il s'agit. Une opportunité, peut-être quelque chose de difficile qui va arriver. Alors, je ne sais pas si vous avez des modèles, mais en tout cas, vous avez ici, ce matin, un modèle à suivre. Un modèle à suivre au travers de ces deux personnages, Paul et Barnabas. Des hommes qui ont annoncé fidèlement l'Évangile, des hommes qui ont utilisé efficacement leurs dons spirituels, des hommes qui ont cherché humblement la gloire de Jésus, des hommes qui se sont adaptés intelligemment à leurs auditeurs, des hommes qui ont persévéré courageusement dans l'épreuve, des hommes qui ont fortifié soigneusement la foi des disciples, des hommes qui ont responsabilisé rapidement les chrétiens matures et des hommes qui ont présenté humblement le fruit de leur travail. Mes amis, je ne sais pas s'il y a des modèles comme ça dans l'Église, c'est mon aspiration personnelle à être comme ça. J'espère que je suis un modèle, mais honnêtement, je ne suis pas encore au milieu du quart de la cheville de ces deux personnages. Mais je prie que ce soit le cas, pour que je grandisse, et que vous grandissiez avec moi, et qu'on grandisse ensemble, pour qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul, « Regardez ce que Dieu fait ». Et pas seulement chez les Brésiliens. Regardez ce que Dieu fait parmi les Suisses, parmi les Français, parmi les Africains, vous voyez, toutes les nations, les amis. On est une église internationale. Alors prions pour que Dieu nous utilise tels que nous sommes, là où nous sommes, et qu'on adapte notre message à nos auditeurs.